Il cultive avec malice de vieux tropismes collants d'anciens profs de français. C'est Nicolas Martin. C'est ce que l'on lit dans Télérama. Je pensais que c'était des vieux collants d'anciens profs de français.
Mais jamais en public, ça.
Mais en tout cas, c'est sa revue de presse qui est à l'honneur à la fois dans Télérama et... ce matin, avec un mot, liberté, liberté chérie, Nicolas.
Et oui, Guillaume, comment ne pas commencer cette revue de presse aujourd'hui, mardi 3 mai, sans mentionner le fait que c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, hein, journée sous l'égide de l'ONU. Je vous livre d'ailleurs le message de son secrétaire général, Ban Ki-moon. Sans ce droit fondamental, la population est moins libre et moins autonome. Mais avec, nous pourrons construire ensemble un monde digne et offrant des possibilités à tous. Voilà le beau monde qui nous attend quand la presse est libre et dont acte, hein, défendons cette belle liberté d'informer les citoyens. Une valeur qui semble d'ailleurs consubstantielle, hein, celle que notre nation défend. Le mot liberté n'est-il pas l'un des trois mots de notre devise nationale après tout? Eh bien, figurez-vous qu'au classement annuel de Reporters sans frontières, la France est en recul de 7 places. Et tombe à la 45e place, juste derrière Trinité et Tobago, le Botswana, le Burkina Faso. On pourrait également citer Belize, hein, en hommage à Thierry Garcin.
Ah bah oui, il faut citer
qui
Belize.
Qui est quasiment 10 places devant nous, à la 36e place. Ou encore le Suriname, la Jamaïque, le Costa Rica à la 6e place. Et dans le trio de tête, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour que nous soyons à ce point en chute libre? Quelle est, vous demandez-vous, la part de responsabilité d'Yves Tréhard, de Laurent Geoffrin ou de Nicolas Bétou dans cette affaire? Rassurez-vous, aucune.
Ah.
Ou en tout cas pas officiellement. Voici en tout cas les arguments qu'avance Reporters sans frontières pour justifier de cette dégringolade. Si la presse est globalement libre et plutôt protégée par la loi, le paysage médiatique français est largement constitué de groupes dont les propriétaires ont d'autres intérêts qui souvent pèsent beaucoup plus que leur attachement au journalisme. Cette situation entraîne des conflits qui font peser une menace sur l'indépendance éditoriale et même sur la situation économique des médias. On note également, dit toujours Reporters sans frontières, une hostilité grandissante à l'égard des journalistes de la part de la population. Voilà les raisons donc de notre médiocre classement. Hein. Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère et consorts en sont pour leurs frais. Pour le reste, rappelons avec La Croix ce matin que le prix mondial de la liberté de la presse sera remis à la journaliste azerbaïdjanaise Khadija Ismailova, qui purge à l'heure actuelle une peine de 7 ans et demi de prison à l'issue d'une parodie de procès. Elle réussit malgré tout à faire sortir ses tribunes de sa prison et à la publier dans la presse internationale au risque d'aggraver son régime d'isolement. Son dernier article remonte au 31 mars dans le Washington Post. La détenue indocile décortique comment le pouvoir utilise les prisonniers politiques comme monnaie d'échange avec ses interlocuteurs occidentaux, interprétant la soudaine libération de 15 militants des droits de l'homme à la lumière de la visite du président Ilham Aliyev aux États-Unis.
Et l'actualité en France, Nicolas, c'est le début de l'examen à l'Assemblée de la loi travail.
Et avec pour l'occasion une interview vérité, une interview confession de la ministre Myriam El Khomri dans les colonnes du Parisien, jugeant plutôt en voici les meilleurs extraits en une, déjà le grand titre, « Faut-il céder à la rue ? Non !» Voilà qui est dit, une parole forte, mais à l'intérieur, le ton se fait plus doux, plus conciliant. Les erreurs, je les assume. Myriam El Khomri déclare entre autres qu'elle n'est pas dans la perspective d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte en force malgré le manque de 40 voix à l'Assemblée nationale pour obtenir une majorité pour voter le texte. Mais ce n'est pas tout. La ministre déclare en outre qu'elle ne ferme pas la porte à des évolutions, entendez par là, à faire amender la loi encore et encore, comme sur l'encadrement des licenciements ou l'appréciation des difficultés économiques d'une entreprise à l'international. Voilà qui laisse en tout cas la plupart des éditorialistes sceptiques ce matin. Hein, à force d'être trituré, réécrit, recomposé, le projet El Khomri a perdu de l'épaisseur et une part de son potentiel à faire bouger les lignes pour Alain Dussart de l'Est républicain. Que restera-t-il de l'ambition initiale de la loi El Khomri, se demande Anne de Guigné dans le Figaro. À écouter le patronat, plus rien. Et dans le camp d'en face, on n'est guère plus optimiste. Ou bien ce projet de loi travail était parfait et l'on ne voit pas au nom de quoi il faudrait le modifier, écrit Michel Guillou dans son édito dans l'UMA. Ou bien, à force de multiplier les amendements, on démontre, si ce n'est son inutilité, sa nocivité, auquel cas, il faut le retirer. Finalement, la seule voix dissonante ce matin, c'est celle de Jean-Francis Pécresse dans Les Échos, pour qui, sans embâge, l'ordre public et l'intérêt des entreprises imposent de passer la loi El Khomri au 49-3. Selon lui, quand prolonger au-delà du raisonnable le débat démocratique en vient à ébranler la paix civile, il faut sans hésiter préférer la paix au débat. Au nom de l'ordre public, il devient urgent de mettre fin à cet état de zadisme permanent. Ah oui. Zadisme avec un Z, c'est pas une faute de prononciation.
Zadisme dans le métro.
Voilà, c'est ça. Bref, comme le résume Luma et Le Parisien dans ce délicieux calembour, la loi travail promet à la ministre quelques nuits debout dans l'hémicycle.
Ce qui promet aussi quelques retours tardifs à la maison pour la ministre.
Et ce ne sera pas la seule, Guillaume, si l'on en croit cet article de La Croix qui nous explique que les femmes sont aujourd'hui souvent plus diplômées que leurs conjoints et qu'elles ont donc des amplitudes de travail plus larges. Pour la génération née à la fin des années 60, 40% des couples sont endogames, c'est-à-dire de niveau académique équivalent, 40% sont ceux où la femme est plus diplômée, et seulement 20% ceux où l'homme est dans ce cas. C'est une situation qui a évolué rapidement, nous explique l'article, au cours du XXe siècle, puisque pour la génération des années 20, seuls 7% des couples étaient dans ce cas. Vous pourrez lire dans le journal des témoignages de couples qui racontent ce quotidien. Patrice, par exemple, qui explique que ça ne l'a jamais dérangé que sa compagne gagne 1000 euros de plus que lui par mois. En revanche, explique-t-il, lorsque j'étais en congé parental, j'étais gêné de ne pas rapporter de l'argent au foyer. On a beau être ouvert, les instincts virils un peu primaires ne sont jamais loin, raconte Patrice. Et puisqu'on parle d'instincts virils un peu primaires, eh bien on trouvera aujourd'hui en page 2 du cahier Entreprise et marché des Échos cette information. Isabelle Cochet, première femme patronne du CAC 40. Elle va prendre la succession de Gérard Mestrallet, à la tête d'Engie, ex-GDF Suez. Première femme patronne du CAC 40. Nous sommes en France en 2016, donc malgré quelques progrès, vous voyez, la parité, c'est comme la liberté de la presse, on a encore du travail.